Il est 12h ici à Washington. Eric Manilakidza de retour avec vous dans ce bulletin d'information. Les experts des droits de l'homme de l'ONU ont demandé aujourd'hui au Cameroun de libérer le principal dirigeant d'opposition et les autres individus arrêtés lors de manifestations pacifiques à travers le pays et de cesser les intimidations à l'encontre des militants politiques. Ils ont également demandé au Cameroun d'enquêter de manière impartiale sur toutes ces violations des droits de l'homme, y compris les allégations de disparition forcée, de détention arbitraire et de mauvais traitements infligés aux manifestants et de traduire les auteurs de ces actes en justice. De nouvelles manifestations contre les violences policières ont rassemblé lundi au Nigeria quelques centaines de personnes à Abuja et Lagos, malgré la dissolution la veille par les autorités d'une unité de police controversée. Le service de nettoyage de Lagos, capitale économique du Nigeria, déblayait lundi les restes d'un immeuble en construction qui s'est effondré dimanche, faisant 8 morts et 10 blessés graves. En RDC, des millions d'enfants doivent reprendre le chemin des classes qui avaient été fermées fin mars sur décision du président Félix Tshisekedi à l'apparition des premiers cas de coronavirus dans le pays. La justice internationale doit décider si le financier présumé du génocide au Rwanda, Félicien Kabuga, détenu en France, doit être remis directement à Arusha en Tanzanie pour y être jugé ou passer d'abord par les Pays-Bas pour un examen médical. Les autorités tanzaniennes ont accru leur répression des opposants politiques utilisant de façon partisane un important arsenal législatif pour entraver leur tentative de faire campagne à l'approche des élections générales du 28 octobre, dénonce aujourd'hui Amnesty International. Le président sud-africain a appelé lundi au calme après une manifestation contre le meurtre d'un fermier blanc. Cyril Ramaphosa a souligné que les tensions raciales liées à ces incidents rappelaient tristement que l'Afrique du Sud restait en convalescence du régime de l'apartheid. Il estime que les relations raciales dans les zones rurales ne sont pas harmonieuses malgré l'avènement de la démocratie. Mais si nous n'abordons pas cette question de façon ouverte et honnête, elle restera une plaie purulente qui menace la cohésion sociale, a-t-il jugé. Le gouvernement israélien a donné son feu vert lundi pour l'immigration de 2000 Éthiopiens de la communauté des Falashmora au titre du regroupement familial. Le Sénat des États-Unis a entamé lundi l'audition de la juge Amy Coney Barrett, nommée par le président Trump à la Cour suprême, malgré l'opposition des démocrates qui ont toutefois pu de levier pour empêcher sa confirmation avant l'élection du 3 novembre. La magistrate de 48 ans a été choisie le 26 septembre par le président Donald Trump pour succéder à l'icône féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée 8 jours plus tôt des suites d'un cancer. Toujours ici aux États-Unis, le président Trump entame aujourd'hui un marathon de meetings dans 3 États clés et en 3 jours, la Pennsylvanie, la Floride et l'Iowa. Il a été en retrait pendant 10 jours après avoir été testé positif au COVID-19. Dans un bref communiqué, le docteur Sean Colley a affirmé que le président Trump n'était plus considéré comme risquant de transmettre le virus à d'autres personnes. Plus de 214 personnes sont mortes du COVID-19 aux États-Unis. Laisser le COVID-19 circuler librement dans la société pour que la population accède, comme certains l'ont suggéré, à l'immunité collective n'est pas une option à assurer aujourd'hui le patron de l'OMS. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont entendus aujourd'hui à Luxembourg pour sanctionner la Russie pour l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny, a annoncé le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Le changement climatique, le principal responsable du doublement des catastrophes naturelles dans le monde en 20 ans, a alerté lundi l'ONU, signalant que les désastres naturels ont tué plus de 1,2 million de personnes depuis 2000. Les forces américaines ont annoncé lundi avoir mené plusieurs frappes aériennes contre des talibans qui attaquaient une ville clé du sud de l'Afghanistan, alors que la situation sécuritaire se détériore malgré les pourparlers de paix entre les insurgés et Kaboul au Qatar.
La Minute Éco avec John Lydon pour VOA Afrique. Les mesures prises par la Tunisie pour faire face à la flambée des cas de coronavirus vont avoir des conséquences sociales désastreuses. Les observateurs prédisent une flambée du chômage et de nouvelles vagues de faillites dans ce pays, déjà à la peine économiquement. La première vague de la pandémie a entraîné la perte de 165 000 emplois selon le patronat tunisien. 40% des entreprises d'artisanat ont déjà mis la clé sous la porte et environ 35% des PME sont menacées de faillite. Les États africains ont besoin de 1 200 milliards de dollars de financement jusqu'en 2023 pour surmonter la crise provoquée par la pandémie du COVID-19. C'est ce qu'a annoncé vendredi la directrice générale du FMI, soulignant que quelques 345 milliards étaient pour l'heure manquants. Ici aux États-Unis, Apple devrait lancer sa première gamme de smartphones équipés de la technologie 5G mardi. Les très attendus iPhone 12, plus d'un an après ses deux rivaux Samsung et Huawei. Apple a annoncé son événement marketing avec une formule critique « High Speed, Bonjour Vitesse » qui semble faire référence à l'accélération du débit promise par la 5G.
VOA Afrique.
C'était pas toi sur la photo.